Donc, chers frères et sœurs, chers amis qui nous visitez, je vous invite à ouvrir votre Bible ou à suivre avec la personne qui est à côté de vous. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Nous faisons une étude suivie de cette lettre de Paul, Philippiens chapitre 2. Et je vous invite à lire à partir du verset 19. Philippiens chapitre 2, verset 19. Et nous lisons la parole de Dieu. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. En effet, tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. Il ira bientôt aussi les voir, il ira bientôt vers eux. Combien d'entre vous avez déjà médité ce passage, ce texte? Juste les versets que nous venons de lire. Je crois que c'est le genre de texte sur lequel on passe très rapidement, parce qu'on ne voit pas beaucoup quel intérêt cela pourrait avoir pour nous. Il n'est pas question de justification par la foi, il n'est pas question de doctrine particulière, de la personne de Christ, comme au début du chapitre 2. Il n'y a pas de grandes vérités théologiques qui sont apportées là, juste un désir de voyage. Voilà. Juste ça, c'est quelque chose d'extrêmement, on pourrait dire, terre à terre. Et Paul parle ici de lui, de son intention. Il parle de deux de ses coéquipiers, Timothée, et puis un peu plus tard, à partir du verset 25, il parle d'Épaphrodite. Il parle de leurs besoins, de son projet d'envoyer Timothée, mais en fait il envoie d'abord Épaphrodite qui va partir avec la lettre. C'est pour ça qu'il dit que j'ai envoyé Épaphrodite vers vous. Et puis il espère lui-même aussi pouvoir aller là-bas. Donc il parle du projet de voyage de trois personnes. Et quel intérêt cela présente pour nous? Je crois que souvent on passe vite sous ces choses-là et puis on essaie de trouver quelque chose qui est peut-être plus substantiel. Mais est-ce que ces textes présentent un intérêt pour nous aujourd'hui? Certainement oui. Et oui, pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, pour en retenir trois, il y en a certainement d'autres. D'abord, ce texte, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est la parole inspirée de Dieu et utile pour nous. Deuxième raison pour laquelle ce récit présente un intérêt pour notre méditation, c'est que ce récit nous fait prendre la mesure de la souveraineté de Dieu sur les détails les plus terre à terre de l'existence humaine, comme l'organisation d'un simple voyage ici. C'est ce que l'on peut voir ici. L'apôtre Paul dit, verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer Timothée. » Et au verset 24, il dit « J'ai cette confiance dans le Seigneur. » Ici, il montre que ce projet de voyage, et même d'incertitude concernant ce voyage, est placé dans le plan de Dieu. Mardi soir, on a parlé avec l'épître de Jacques. Vous vous rappelez ce texte où Jacques dit « vous qui dites « demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela », dites au contraire « si Dieu le veut ». C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit ici, il dit « si Dieu le veut », et c'est important pour le croyant de dire « si Dieu le veut ». Cela mérite vraiment notre méditation, car nous sommes souvent enclins à faire confiance à Dieu pour ce qui nous dépasse visiblement. Mais quand on a l'impression que les choses sont entre nos mains, que nous sommes maîtres de notre destin et qu'on peut décider, on oublie de faire référence à Dieu, de dire si Dieu le veut ou de mettre les choses dans la main du Seigneur. Et on agit sans consulter Dieu, sans consulter la parole et même sans prier. Donc on voit dans ce texte qu'un serviteur tel que Paul, proche du Seigneur, laisse transparaître un peu son incertitude quant à l'organisation d'un voyage et qu'il place ça sous la souveraineté de Dieu lui-même. Mais il y a aussi une troisième raison, je pense, pour laquelle nous devrions méditer ce texte, c'est que ce texte est en lien avec tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire depuis le début de cette épître, et particulièrement depuis le verset 27 du chapitre 1, quand il a dit « seulement vivez d'une manière digne de l'Évangile ». Et tout ce qu'il développe là, c'est pour montrer comment on doit vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et il avait montré déjà dans ce même verset 27 que pour vivre d'une manière digne de l'Évangile, il fallait marcher d'une même âme, combattre d'une même âme, dans un même esprit. Il avait dit au début du chapitre 2, il avait encouragé les Philippiens à avoir une unité et à être empreint d'humilité, n'est-ce pas, si vous regardez au chapitre 2. Très rapidement, il dit « Si donc il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est l'unité ici. Puis après, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il dit « Il faut de l'unité. » Et pour vivre et marcher d'une manière digne de l'Évangile, il faut aussi vivre dans l'humilité. Il faut de l'humilité dans vos relations. Et puis, il va donc donner des exemples, en fait, de ce que c'est que l'humilité. Il en donne 4. Et le premier exemple qu'il donne, c'est celui de Jésus-Christ. Regardez chapitre 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et donc tout ce qu'il dit, cet honneur qui est fait à Christ, c'est pour montrer l'humilité qui était en Jésus-Christ. Et puis après, plus tard, il parle de lui-même. Regardez au verset 17, il dit « Même si je sers de libation, c'est-à-dire d'offrande, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. » Il parle du fait que, voilà, lui-même, d'accord, doit être considéré aussi comme un exemple. Il donne l'exemple de Timothée, qui est un homme, regardez au verset 22, il dit, 22, où il dit, plutôt 21, il dit que tous cherchent leur propre intérêt, ça ressemble même à ce qu'on a lu au début du chapitre 2, tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ, et il dit que lui, Timothée, il n'en est pas ainsi, lui, il cherche l'intérêt de Christ. Et voilà l'exemple d'un homme, voilà, qui vit avec un véritable esprit de service et dans l'humilité. Et puis aussi, il donne l'exemple d'Épaphrodite qui va jusqu'à, il dit, on n'a pas lu ce passage, mais il dit, il était au bord de la mort pour pouvoir servir et suppléer à votre absence. Et donc, il donne l'exemple de 4 personnes. Et donc, c'est important pour nous de méditer ces choses parce que ce sont les exemples mêmes que le Saint-Esprit nous donne pour nous montrer ce que c'est que de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et donc, nous verrons une prochaine fois, si Dieu le veut, l'exemple d'Épaphrodite, mais aujourd'hui, nous allons considérer l'exemple de Timothée. Et le titre de notre méditation ce matin, c'est « Timothée, l'exemple d'un véritable esprit de service ». Timothée, l'exemple d'un véritable esprit de service. L'esprit de service, première chose, véritable, se démontre par une grande disponibilité. L'esprit de service, véritable, se démontre par une grande disponibilité. un trait qui ressort, je crois, du caractère de Timothée, c'est sa grande disponibilité. Lorsque Paul dit « J'espère dans le Seigneur vous envoyer Timothée », il indique que Timothée est prêt à y aller et qu'il est disponible pour faire ce voyage de Rome à Philippe. Parce que l'apôtre Paul se trouve emprisonné à Rome, et Timothée est à ses côtés, et donc il va l'envoyer là-bas. L'apôtre Paul ne l'envoie pas bien malgré lui. Hein. L'apôtre ne le force pas et ne lui met pas le couteau, comme on dit, sous la gorge pour lui dire d'y aller. Il exprime que Timothée est disponible en disant cela pour venir jusqu'à vous. D'ailleurs, l'apôtre Paul n'a jamais forcé quiconque à faire quelque chose. Et rappelez-vous de l'exemple en 1 Corinthiens chapitre 16, lorsqu'il parle d'Apollos. Il dit ceci, il dit « Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. » Il parle aux Corinthiens, il dit « J'ai demandé à Apollos, je l'ai exhorté à aller vous voir. » Et il ajoute « Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. » Vous voyez, Paul exhorte Apollos à y aller. Apollos n'est pas prêt à y aller. Paul dit, mais il le fera quand il en aura l'occasion. Donc, quand il parle de Timothée qu'il envoie, il n'est pas en train de mettre le couteau sous la gorge de Timothée, mais il exprime qu'il est prêt à venir vers vous. Timothée est un homme, un serviteur disponible. Disponible pour aller et servir là où il doit servir. Parfois, Paul lui disait « va » et il allait. Paul lui disait « viens » et il venait. Paul lui disait « reste là » et il restait là. Il était disponible pour partir, disponible pour venir vers Paul, disponible pour rester là où Paul lui demandait de rester. Et si vous lisez dans les Actes et dans les Épîtres, vous allez trouver cela. On n'a pas le temps de voir tout cela. Mais par exemple, Paul dit dans Actes chapitre 19, verset 22, ou dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Alors on peut regarder 2 Corinthiens 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Juste pour avoir des exemples, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 4, excusez-moi, 1 Corinthiens 4, verset 17. L'apôtre Paul dit, « Pour cela, je vous ai envoyé, voyez, Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Je vous ai envoyé, il dit Timothée. Il y a d'autres endroits où on voit que Paul a envoyé Timothée. Et Timothée est parti. Hein? Ici. Et puis, parfois, il demande à Timothée de venir. Quand il est en prison à la fin de sa vie à Rome, il dit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et ça, on trouve ça dans 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Mais parfois, il demande à Timothée aussi de rester. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3, par exemple, l'apôtre Paul dit ceci, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. » Et Timothée est resté à Éphèse. Paul lui dit « va », il va. Paul lui dit « viens », il vient. Paul lui dit « reste là », il reste là. Il est disponible pour faire ce qu'on lui demande. Il montre une disponibilité malgré la difficulté du service demandé. Paul lui demande de partir de Rome pour aller à Philippe, 1 millier de kilomètres. Pas de TGV, pas d'automobile confortable, pas d'A380. Il faut y aller à pied, traverser la mer. Ça prend 10 semaines. Tu vas là-bas, tu t'occupes, tu regardes, tu prends des nouvelles et tu viens me rapporter les nouvelles. C'est un aller-retour qu'il lui demande. Ça prend 2 semaines, peut-être 2 mois, je ne sais pas. Que fait Timothée ? Il va. Il est disponible pour le faire, quelle que soit la difficulté de la tâche demandée. Lorsque Paul l'intègre dans son équipe, dans Actes chapitre 16, hein, Paul intègre Timothée dans son équipe, eh bien Timothée, la Bible dit que c'est un homme qui habite Lystre. Et vous savez qu'à Lystre, Paul a été lapidé. Il a été laissé même comme mort. Et il engage Timothée à le suivre. Timothée voit cela et sait bien que ça n'est pas dans un au Club Med qui va l'emmener, hein, dans un voyage où ils vont. Non, il va avec un homme qui connaît de la difficulté, de la souffrance à cause de l'évangile. Et Timothée s'engage avec lui, disponible, il est prêt à y aller. Une disponibilité, donc, malgré la difficulté du service, une disponibilité aussi, quelle que soit la nature du service demandé. La charge confiée à Timothée n'a pas toujours été la même. Okay. Parfois, la mission de Timothée a été de prêcher purement et simplement l'évangile. De Timothée chapitre 4, verset 2, Paul lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Voilà, c'est une mission d'enseignement, d'exhortation, chose que parfois on aime faire un peu. Mais parfois, il a eu comme mission simplement d'être le représentant de l'apôtre Paul, de dire des choses, pas à propos de lui-même, pas de lui-même, mais simplement parler de l'apôtre Paul. Regardez par exemple en 1 Corinthiens 4, 17 que nous avons lu, il est dit « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. » Timothée, là, puis dit, voilà comment Paul fait. Paul, il fait comme ça. Voilà comment Paul prêche. Paul, il prêche comme ça. Voilà comment Paul pense. Paul, il pense comme ça. C'était la mission qui lui était confiée. Il l'a fait. Il était disponible pour ce type de mission-là aussi. Plus tard, Timothée sera responsable d'une église, même à Éphèse. Donc Paul lui a confié la charge de rester à Éphèse pour enseigner, pour empêcher que n'importe quel enseignement ne pénètre dans l'église. Et Timothée était aussi disponible pour cette lourde responsabilité. Mais encore plus tard, on a lu tout à l'heure, lorsque Paul est en prison, il lui dit « Viens me voir, parce que je suis seul. J'ai besoin de toi. » Et Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse. Et puis il lui dit « Quand tu viens, apporte-moi des manteaux et puis les livres que j'ai laissés. » C'est une mission de coursier et d'homme de compagnie. Timothée laisse Éphèse et il le fait. C'est un homme disponible. Disponible pour servir, quelle que soit la difficulté de la tâche, quelle que soit ici la nature du service. Mais disponible aussi pour servir quelles que soient les personnes à servir. Timothée a passé de très nombreuses années auprès de Paul à le servir. Ouais. Mais quand Paul lui dit « va vers les Philippiens », il est prêt aussi à aller servir les Philippiens. Il dit pas « non, moi je veux rester auprès de Paul ». Non, c'est pas. Vous savez, on est parfois comme ça, on veut rester à côté des grands personnages, de personnes que l'on sait avoir une certaine aura, et puis si on nous dit d'aller vers les autres, ben ça ne nous intéresse pas trop. Timothée est aussi prêt à rester auprès de Paul, si Paul le lui demande, mais aussi prêt aussi à aller vers les Philippiens. Plus tard, on le verra, Paul dit qu'il a un cœur pour les Philippiens. C'est un homme qui est prêt à servir quelle que soit la personne vers qui on l'envoie servir. Il ne choisit pas qui il veut servir. Il ne dit pas « je veux être auprès de Paul ». Il ne fait pas de favoritisme. Mais il reste disponible pour tous. Disponible, quelle que soit la difficulté, disponible, quelle que soit la nature de la tâche demandée, disponible, quelles que soient les personnes même à servir. Un apôtre ou des simples membres de l'Église. Quelle est notre attitude de service? Sommes-nous disponibles, chers frères et sœurs? Celui qui est disponible, il dit « me voici » avant toute autre considération. Il ne dit pas « je viendrai », mais « dis-moi d'abord qu'est-ce qu'il y a à faire ». Parfois, il y a des gens qui nous disent « si je peux t'aider, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Dis-moi simplement, je suis disponible ». Ils montrent qu'ils sont disponibles sans même connaître ce qu'on va leur demander. Je suis là, je voudrais bien faire quelque chose. Dis-moi ce qu'il y a à faire. C'est exactement l'esprit de Timothée. Mais on entend souvent et de plus en plus, je n'ai pas le temps. Ou, j'ai quelque chose à faire. On dira, tu restes à la réunion cet après-midi? Non, j'ai quelque chose à faire. Mais tu ne voudrais pas venir avec nous? Non, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail. Alors ça peut être ou des devoirs de classe, ou autre chose, etc. Le temps est quelque chose que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Et nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, disponibles pour accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Malheureusement, nous vivons dans un temps où on est de moins en moins disponible. On donne le strict minimum. J'ai donné 1h30 le dimanche. J'ai donné 1h30. C'est déjà pas mal. Dieu devrait être content de cela. Mais on voit ici Timothée, un homme qui est disponible. Même si c'est difficile, même si on exige beaucoup de lui, il se rend disponible, quel que soit le service demandé. Deuxièmement, donc premièrement, on a vu que l'esprit de service véritable se démontre par une grande disponibilité. Mais deuxièmement, on voit à travers ce que Paul dit de Timothée, que l'esprit de service véritable se démontre à travers une profonde humilité aussi. L'esprit de service se démontre par une profonde humilité. Paul indique son intention d'envoyer Timothée et Épaphrodite. J'espère dans le Seigneur vous envoyer, Timothée. C'est l'intention de qui ici? De Paul en premier. Il parle de ce qu'il a l'intention de faire. D'accord? Et plus tard au verset 24, il dit même, j'espère vous l'envoyer lorsque je verrai l'issue de la situation dans laquelle je me trouve. Autrement dit, c'est son intention et puis il est aussi maître du timing. Hein. Il dit ici, c'est quand les choses iront mieux pour moi, quand je saurai ce qu'il adviendra de moi dans cette prison, eh bien je vous enverrai Timothée. Et Timothée est prêt à le faire parce qu'il est un homme soumis et humble. Il montre par là son humilité. Timothée sert sous la pleine directive de Paul. C'est Paul qui mène les choses. Et Timothée, il est disponible et il se soumet. Il montre son humilité. Au verset 22, par exemple, vous lisez, Paul dit, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. » Avec moi, comme un enfant avec son père. Et quand il dit ici au service, le mot employé, c'est le mot d'esclave, de lequel on tire le mot esclave. Il dit, il a servi avec moi en se consacrant comme esclave de l'Évangile. Mais en se consacrant comme esclave de l'Évangile, il s'est consacré comme esclave de Paul lui-même. Pour accomplir, pour supplier, pour l'aider, pour être pleinement à son service. Et Timothée montre par là un véritable esprit de service par sa profonde humilité. Il a passé plusieurs années à aller, on l'a dit, et venir là où Paul l'envoyait, à se soumettre à ses directives. Et même quand il était pasteur d'une église, hein, il aurait tout à fait pu dire à Paul, j'ai trop de choses à faire, je suis débordé, tu sais, j'ai une église, il y a plusieurs centaines de personnes, tu veux que je fasse un voyage de milliers de kilomètres, que je vienne vers Troyes, bon, il y a peut-être quelqu'un d'autre que je peux... Non ! Il s'est soumis. Il a abandonné peut-être ce ministère florissant qu'il avait pour pouvoir venir et aider son mentor, Paul. Timothée était un homme avec un ministère puissant. Ce n'était pas juste une aide de camp. C'était quelqu'un qui avait un ministère puissant. La Bible dit, en 1 Thessaloniciens 3, verset 2, Paul dit encore, nous vous envoyâmes Timothée, encore une fois il l'envoie, notre frère, écoutez comment il le qualifie, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Il va vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. C'est un homme qui avait un ministère puissant. Avec un grand rayonnement. Mais il n'a pas regardé à ça comme une poire arrachée. Lorsque Paul lui dit « Viens auprès de moi parce que j'ai besoin de toi », il quitte cela et il va vers Paul. Parce qu'il fait preuve d'humilité. Il plaçait Paul avant lui-même, tout comme il plaçait l'église de Philippe avant lui-même, et certainement il a placé l'église d'Éphèse avant lui-même. Timothée faisait preuve d'humilité. C'est quoi l'humilité? Vous avez déjà posé la question, c'est quoi l'humilité? Parfois on dit, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui n'a pas de grandes ambitions. Si moi, par exemple, je dis, je n'aspire pas à devenir PDG d'Airbus. Ce n'est pas de l'humilité. Je ne le serai jamais. Je n'ai pas la capacité pour. À moins que Dieu ne fasse un miracle sur mon cerveau, je n'ai pas la capacité pour. D'accord ? Pour comprendre ce que c'est que l'humilité, souvent on pense que l'humilité, c'est de ne pas aspirer à de grandes choses. Que quelqu'un est humble parce que quelqu'un n'aspire pas de grandes choses. Ce n'est pas ça du tout l'humilité. Pour comprendre ce que c'est que l'humilité, il faut regarder l'exemple que Paul donne dans ce même chapitre de Christ. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant Dieu, il n'a pas cherché comme une poix arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas cherché à s'agripper à ce qui est son droit le plus légitime. » Et donc, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui pourrait légitimement réclamer un droit qui lui revient, mais qui ne le fait pas pour se mettre au service des autres. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire, j'ai tout à fait le droit d'exiger cela. Et ce serait normal que je le demande. Ce serait normal que je le demande. C'est comme l'apôtre Paul quand il dit, par exemple, il dit, j'ai le droit d'exiger qu'on me paye pour le ministère que j'accomplis parmi vous. Mais je ne le fais pas. Et s'il le faisait, il serait dans son bon droit, parce que Dieu dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc ce serait, c'est son droit. Mais il dit, je ne l'ai pas fait. Et l'humilité, c'est cela, voyez. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont des droits, que je pourrais revendiquer comme des droits. Tout à fait légitimement. Mais j'abandonne ces droits pour me mettre au service des autres. Et ainsi, je regarde les autres comme étant au-dessus de moi-même. Essayez de penser à ça dans plusieurs domaines de notre vie. D'accord ? Les choses auxquelles nous nous agrippons, le respect, personne qui doit me considérer comme ceci, etc., etc., qui sont des choses légitimes et que nous avons besoin de mettre de côté pour pouvoir vivre avec un esprit comme celui de Timothée. Le ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, est un homme qui était humble et qui a quitté ces choses pour aller servir Paul lorsque Paul en avait besoin. Donc l'esprit de service véritable se démontre par une grande disponibilité. Deuxièmement, l'esprit de service véritable se manifeste par une profonde humilité. Mais troisièmement, l'esprit de service véritable est motivé par la recherche des intérêts de Christ. L'esprit de service est motivé par la recherche des intérêts de Christ. L'apôtre Paul dit, car je n'ai, verset 20, personne qui ici partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Verset 20 et 21. Et donc, Paul établit un contraste entre, ou une différence entre Timothée et puis un tous ici. Quel est le tous dont il parle ici? Probablement d'autres chrétiens qui avaient autour de lui à ce moment particulier. Au chapitre 1, on va rappeler, on avait vu qu'il y avait des personnes qui prêchaient Christ par esprit de parti, par envie, et pour causer du tort à l'apôtre Paul. Mais Paul, la manière d'écrire ici de Paul suggère que Timothée, lui, il n'est pas comme cela. Quand il dit « je n'ai personne ici qui partage mes sentiments », il veut dire « à part Timothée », c'est-à-dire il faut comprendre qu'il donne une description de Timothée en donnant une description négative ici des autres. Les autres ne partagent pas mes sentiments. Les autres ne cherchent pas les intérêts de Christ. Les autres cherchent leur propre intérêt, ici. Timothée, il n'en est pas ainsi de lui. Il partage mes sentiments. Il prend à cœur votre situation. Il ne recherche pas ses intérêts, mais il recherche les intérêts de Christ. Et donc l'esprit de service véritable est motivé par la recherche des intérêts de Christ. La recherche des intérêts de Christ dans le partage des sentiments. Paul dit que Timothée partage ses sentiments. Et l'expression, c'est « âme égale ». Il a une âme égale avec Paul. Ce que Timothée avait déjà dit, vous rappelez-vous, quand il avait dit que vous devez vous conduire d'une manière digne de l'Évangile en combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Il dit ici que Timothée a une âme égale. Il partage vraiment ce que j'ai au plus profond du cœur. Timothée était tellement proche de l'apôtre Paul qu'il pouvait sentir sa joie, sentir sa peine. Il avait une âme qui vibrait au diapason de l'âme de l'apôtre Paul. Il pouvait sentir ce que Paul ressentait. Il est touché quand l'apôtre Paul est touché dans son âme. Et il est prêt à embrasser tout ce qui constitue les préoccupations de Paul. Donc la relation qui existe entre Paul et Timothée, il le dit plus loin, c'est celle entre un père et son fils. Il le dit un peu plus tard. Et vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Plusieurs fois ailleurs, il appelle Timothée son enfant légitime. Donc il montre son intérêt pour Christ en partageant profondément ce que Paul partage. En communion avec lui, on pourrait dire. Et puis, il montre son intérêt pour Christ aussi, dans un souci authentique pour le bien-être spirituel des autres, et particulièrement ici, des Philippiens. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent le propre intérêt et non ceux de Christ. Prendre à cœur, ça veut dire quoi ici? Le mot qui est utilisé pour prendre à cœur, c'est exactement le même mot qui est utilisé en Philippiens 4, 6, qui dit « ne vous inquiétez de rien ». C'est le mot « inquiétez » ici. Alors, ça peut être négativement utilisé ici quand il dit « ne vous inquiétez pas », ne soyez pas anxieux, c'est ce que Jésus dit, « ne vous inquiétez pas du lendemain ». Mais aussi, il peut être utilisé dans un sens, on pourrait dire qu'il parle de prendre soin. On doit s'inquiéter quand même, quelque part, du lendemain. Se soucier de quelque chose. Prendre soin de quelque chose. Eh bien, il dit ici que Timothée, il prend soin de vous. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit « Celui qui est marié, il s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. » Eh bien, il dit « il prend cela en charge, en souci, il va chercher les moyens de plaire à sa femme. » Et il dit, c'est normal, ce qu'il est en train de dire ici. Okay? Et donc, quand il dit que Timothée prend sincèrement à cœur votre situation, il dit qu'il s'inquiète pour vous. Il a un cœur pour vous, ici. Et il dit qu'il le fait sincèrement. Et le mot sincèrement, c'est le mot qui traduit légitime quand on parle d'un enfant légitime. C'est-à-dire qu'il est authentique, il s'inquiète vraiment. Il y a des gens qui s'inquiètent superficiellement, où on a un souci pour les gens. Oui, bon, le jour où on dit qu'il faut prier pour une personne, on prie pour cette personne, et puis une fois qu'on a terminé, on a oublié. Mais il dit ici, c'est un souci authentique, véritable, réel qu'il a pour chacun d'entre vous. Et le souci de Timothée pour la situation des chrétiens de Philippe, était vraiment un profond souci. Il prend à cœur leur situation. Et quand on prend à cœur la situation des autres, on est préoccupé par les intérêts de Christ. Rappelez-vous que ce que Jésus lui-même dit, quand il parle de la fin des temps, il dit qu'il parle de ce roi qui va dire aux gens, mettez-vous ici, ou retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, etc. Puis il y a d'autres qui dira, voilà, vous vous êtes occupé de moi, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et il dit, mais les gens vont dire, mais Seigneur, où t'avons-nous vu pour faire ces choses? Et Jésus dit ceci, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et il dit aussi, Le contraire, il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Matthieu 25, 40 et Matthieu 25, 45. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc servir Christ, être préoccupé par les intérêts de Christ, c'est être préoccupé par les intérêts de ses enfants. Et Paul dit, Timothée, c'est un tel homme. Il a un cœur véritable pour vous, un souci authentique pour vous. Et puis quatrièmement, je voudrais dire ceci, l'esprit de service véritable se démontre par une fidélité éprouvée. L'esprit véritable de service se démontre par une fidélité éprouvée, ou une fiabilité, on pourrait dire. Verset 22, l'apôtre Paul dit, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Et Paul rappelle aux Philippiens cela, il dit, « Vous savez cela, ici, que ce disciple a été mis à l'épreuve. » Et le sens ici, c'est qu'il a été mis à l'épreuve, ça veut dire qu'il a été éprouvé et approuvé. Il a été testé et reconnu fiable. C'est comme une pièce, par exemple, qui travaille dans la mécanique ou dans les trucs automobiles, on fait subir des tests à des pièces, et puis pour contrôler leur fiabilité. C'est bon, c'est une pièce conforme, elle est fiable. Timothée a été éprouvé et il a été reconnu fiable. Donc le mot contient ces deux sens, à la fois le test et à la fois le résultat du test, ici. Et donc, Paul dit qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un fils avec son père. Donc sa consécration au service de l'Évangile. Il a donné un bon témoignage, ici. Timothée a dû être converti lors du premier voyage de Paul, premier voyage missionnaire de Paul, lorsque Paul passe à Lystre. Mais quand il se convertit, l'apôtre Paul ne le prend pas tout de suite avec lui. L'apôtre Paul part, continue son voyage, et puis au bout de quelques années plus tard, je ne sais pas combien, peut-être une, deux années plus tard, il refait un second voyage à Lystre. Il dit, voilà, on va revisiter les églises. Et il repasse à Lystre, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Timothée et qu'il l'engage dans son équipe. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Actes 16 concernant Timothée. Ils disent que les frères de Lystre, Lystre c'était la ville où habitait Timothée, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de Timothée un bon témoignage. Paul ne l'a pas pris tout de suite. Quand il s'est converti, il l'a laissé dans l'église pour qu'il serve dans l'église et qu'il fasse ses preuves dans l'église. Et quand il revient, on lui dit, ce frère a un bon témoignage. Il se base sur ce que l'Église dit, le témoignage des frères de Derbe et de Lystre, avant d'engager Timothée à partir avec lui. Notez que c'est une manière sage d'agir, ici. De tester avant d'engager, ici. Et c'est ce que Paul dit concernant les responsables d'église, en l'occurrence, dans 1 Timothée chapitre 3. Il dit, il ne faut pas que celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit à nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. C'est ça qu'il dit. Il dit, on peut pas dire, oh, je suis au Seigneur, tout de suite, viens, allez, hop, tu vas faire ceci. Non. Il laisse Timothée là. Et si c'est la volonté de Dieu, ben, cet homme va grandir, etc. C'est un jeune homme, Timothée, hein, un jeune homme, corps de qui les frères rendaient un bon témoignage. Les frères plus anciens rendaient un bon témoignage de lui. Ça nous encourage, hein, vous autres qui êtes jeunes, moi, j'être à l'image de Timothée. Mais la Bible dit, il faut qu'il reçoive un bon témoignage du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est-à-dire que quand on engage avant d'avoir le bon témoignage, on fait courir un risque même à la personne en lui confiant des choses parce que le témoignage n'est pas encore attesté. Ainsi, Timothée a été éprouvé en ce qu'il a fait ses preuves dans sa propre église à Lystre. avant d'être engagé comme missionnaire avec Paul. Mais aussi, il a été éprouvé dans son apprentissage auprès de Paul. Verset 22 encore, il dit « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, dit Paul, comme un enfant avec son père. » Avec moi comme un fils avec son père. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de résonance pour nous aujourd'hui, mais il faut vous rendre compte qu'à l'époque, les fils avaient les mêmes métiers que les pères. N'est-ce pas ? Les fils avaient les mêmes métiers que les pères. On était boulanger de père en fils. Hein ? Charpentier de père en fils. Jésus était charpentier. Joseph était charpentier. Et cela suppose qu'entre le père et le fils, il devait avoir une intimité. En tout cas, le fils devait observer vraiment ce que faisait le père. Les gestes pour apprendre correctement chaque chose. Il devait imiter. D'accord ? Voilà, tu fais comme ça, tu pétris la pâte comme ça, etc. Ou tu tiens le marteau comme ça. Tu frappes non pas comme ça, comme ceci. Donc il essayait d'imaginer. Et puis répéter jusqu'à ce qu'il puisse faire la même chose. Et Timothée était comme ça avec l'apôtre Paul. Il a observé Paul dans tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait. Et Paul pouvait dire plus tard, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Il parle à Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Et dit Timothée a fait ses preuves parce que pendant toutes ces années, il est resté là malgré toutes ses souffrances, toutes ses persécutions. Il a vu et il a appris. Et il a appris avec l'apôtre Paul, qui a été son modèle et son mentor. Et il dit, vous savez, il est éprouvé. Parce qu'on a donné de lui un bon témoignage déjà dans sa jeunesse. Il a passé du temps avec moi. Il a vu toutes ces choses. Jusqu'au point où il partage l'âme de Paul même et où il embrasse les préoccupations de Paul lui-même. Quelle chose extraordinaire. Paul pouvait donc attester sa fidélité et sa fiabilité et donc son aptitude à partir à Philippe pour s'occuper des chrétiens là-bas et lui ramener des nouvelles. Paul pouvait faire une entière confiance à Timothée. Il savait comment ça va se passer. Parce qu'ils ont une même âme et parce qu'il connaît le cœur de Timothée pour l'église de Philippe et parce qu'il connaît la fiabilité de Timothée. L'apôtre Paul insiste bien sur cela quand il parle du choix des diacres, par exemple. Il dit, et on peut dire de tous les serviteurs, quel que soit. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès, du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et c'est surtout ce que je vais souligner. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ça, c'est très, très important. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite, leur ministère. Timothée a été éprouvé d'abord et ensuite, on lui a confié des missions. Éprouvé dans son église, éprouvé auprès de l'apôtre Paul, testé, fiable, et on lui a confié des choses. Ça, c'est un principe biblique que nous devons tous respecter et nous devons accepter dans nos églises pour servir Dieu. Il faut accepter d'être éprouvé. Voilà qui nous pousse à la sagesse quand une tâche nous est confiée. Ce n'est pas le désir, chers frères et sœurs, qui doit être le critère seulement. Ce ne sont pas les capacités qui doivent être les critères de choix, mais il faut le caractère éprouvé. Et quand Paul dit cela, tous les critères qu'il donne à la suite, ça montre en quoi est-ce que le diacre, le responsable, etc., doit être éprouvé. Il faut que le prétendant au service soit testé et éprouvé. Comment est-ce qu'il agit réagit dans les circonstances? Quand on exige beaucoup de lui, qu'est-ce qu'il fait? Ou quand on ne l'exige rien de lui, comment il est? D'accord. Est-il irréprochable? Comment il parle? Quel cœur il montre? Il faut prendre le temps d'observer et puis après de confier. Ça, c'est ainsi que Paul a fait avec Timothée. Je termine avec ces quelques mots de conclusion. D'abord, je rappelle, on a vu que l'esprit véritable de service se démontre par une grande disponibilité. L'esprit véritable de service se manifeste par une profonde humilité. L'esprit véritable de service est motivé par la recherche des intérêts de Christ. L'esprit véritable de service, ici, nécessite une fidélité éprouvée. Quelques mots de conclusion. L'évangile produit invariablement des effets dans la vie de celui qui le reçoit. C'est ce que Paul dit ici. Quand il dit marcher d'une manière digne de l'évangile, il donne des exemples d'hommes dans lesquels l'évangile a produit du fruit. Et il dit, regardez ce que l'évangile a produit dans la vie de ces personnes-là. Qui dit être au Seigneur, mais ne produit pas de, n'a pas de fruit dans sa vie du tout, doit se poser des questions sur la réalité de sa foi. Parce que l'évangile produit invariablement des effets. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais on marche de progrès en progrès. L'évangile produit un esprit de service, un cœur qui aime Dieu et qui aime aussi ses frères. Ce sont les signes. Rappelez-vous ce que l'apôtre Jean disait. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas ses frères n'aime pas de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons les frères. Si nous n'aimons pas les frères, contrario, ça veut dire que nous n'avons aucune certitude que nous sommes passés de la mort à la vie. L'évangile produit invariablement des effets dans la vie du croyant. Deuxième remarque, n'oublions pas que les ambitions propres sont un véritable obstacle à l'esprit de service. Ce que Paul montre avec Timothée, c'est qu'il avait regardé l'intérêt des autres comme étant au-dessus de ses propres intérêts. Ce n'était pas à lui qu'il pensait, ni même au fait de briller dans le service de Dieu. Il était disponible pour aller là ou là ou là, les grandes tâches, les petites tâches. Il mettait tout au-dessus de ses propres intérêts et pas ses ambitions propres. Dans notre société hyper-industrialisée, connectée, consumériste et individualiste, on nous formate à penser à nous-mêmes d'abord. Mon travail, mon confort, mes voyages, c'est ce qui compte. Si je peux faire des choses, etc. Moi d'abord. Et s'il reste du temps, Dieu et puis les autres. Mais Paul montre ici que l'homme à qui il a confié la tâche de faire des milliers de kilomètres pour aller juste prendre des nouvelles d'une église, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur profondément et qui avait fait une croix sur ses propres ambitions pour pouvoir être au service des autres. Ce qui qualifie troisièmement pour le service, ça n'est jamais la compétence, mais le caractère. Ce qui qualifie pour le service, ça n'est jamais la compétence, mais le caractère. Nulle part dans la Bible vous trouvez qu'il soit de tel QI, qu'il ait fait telle école, bac plus ceci ou plus cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des études. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans un institut. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que ça n'est pas le critère premier. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes qui ont un cœur pour lui et pour son peuple. Lorsque Dieu parle à Pierre pour lui confier ses brebis, il dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Il dit pas « Pierre, est-ce que tu aimes prêcher ?»« Pierre, est-ce que tu aimes diriger ?» Il dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et après, il lui confie. Parce que celui qui aime le Seigneur véritablement, il aime les enfants du Seigneur. Quatrième remarque que je voudrais faire. Le progrès dans la vie chrétienne nécessite de suivre de bons modèles humains. Le progrès dans la vie chrétienne nécessite de suivre de bons modèles humains. Alors qu'il dit, moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Bien. Mais l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et c'est une parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil de la part de l'apôtre Paul. C'est une parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Il se pose lui-même comme un modèle à suivre. Il se donne à Timothée comme un modèle à suivre. Et il nous donne Timothée comme un modèle à suivre aussi. C'est tout l'intérêt de ce texte dans ce passage. Quand il dit aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regardez Timothée, faites la même chose. Cherchez à développer le même caractère. Il ne demande pas d'être des copies conformes, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'on va écouter quel mot il prononce et puis je vais prononcer les mêmes mots. Je vais regarder quel geste il fait puis je vais faire les mêmes gestes. Il y a des gens qui font comme ça, hein. Je connaissais un jeune, il était entré à l'institut biblique et puis il était toujours bien rasé. Et puis quelques semaines après, il revient après les cours à l'institut biblique, il avait une grosse barbe comme ça. J'ai dit, oh! Et après, j'ai su qu'il y avait un prof à l'institut qui avait une grosse barbe. Et il était en admiration devant ce prof. Des fois, on est comme ça et on réagit comme cela, on fait comme les gens, on imite les mimiques, on est comme ça. En fait, on est fait pour imiter. Donc, c'est pas ça que Paul dit. Il dit pas de laisser vous pousser votre barbe comme celui qui laisse pousser sa barbe, etc. Mais il dit, mais observez-les, comme un fils avec son père. Observez comment ils font. Parce que ce sont des bons modèles. Choisissez-les bien. Mais une fois que vous avez choisi de bons modèles spirituels, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, il dit, regardez comment ils vivent. Et imitez-les. Imitez un Timothée. Imitez un Épaphrodite. Et vous allez voir comment vous allez faire des progrès. C'est la volonté de Dieu que nous imitions des modèles, de bons modèles spirituels humains. C'est la volonté de Dieu que nous imitions de bons modèles spirituels humains. L'apôtre Paul dit dans cette même lettre, 3e chapitre, verset 17, « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Portez les regards sur ceux qui marchent, d'autres qui marchent, pas que lui, d'autres qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc nous devons apprendre à observer d'autres dans leur sanctification et les imiter. Quelle tristesse, n'est-ce pas, de voir ceux qui se disent chrétiens imiter de plus en plus le monde dans ses principes, dans ses pensées, dans ses comportements, dans ses vêtements, dans ses paroles, et ne pas chercher à imiter d'autres chrétiens matures. Parents, nous avons une responsabilité auprès de nos enfants. S'ils doivent observer des modèles, nous devons être leur premier modèle. Il ne faut pas attendre à ce que l'Église soit leur modèle. Nous avons la responsabilité en tant que parents d'être des modèles de piété pour nos enfants. Lorsque Paul dit à Timothée, plus tard, que personne ne méprise ta jeunesse, parce qu'il était jeune, imaginez, les gens, petit jeune là, il va venir nous enseigner, etc. Et peut-être que Timothée dit, ouais, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour moi, etc. Qu'est-ce que Paul lui dit? Paul lui dit pas, eh bien, écoute, insiste, tu montes, tu dis, non, j'ai fait des études. Non, il dit pas ça. Il dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en action, en pureté, en foi. Sois un modèle, Timothée. Montre l'exemple, donne l'exemple à suivre. Lorsque Pierre dit aux anciens comment ils doivent diriger l'Église, il dit qu'ils ne doivent pas le faire par contrainte, ni pour un gain sordide, mais ils doivent le faire en étant des modèles du troupeau. C'est-à-dire, ils doivent donner leur vie en exemple. Le chrétien doit donner sa vie en exemple. Le grand frère chrétien doit donner sa vie en exemple pour le petit frère chrétien. Et n'oubliez, tous les petits qui sont dans nos églises nous regardent vivre, ils nous regardent vivre. Nous sommes, que nous le voulions ou non, des modèles. Malheureusement, parfois de mauvais modèles. Parfois, nous donnons des modèles à ne pas suivre. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de donner des modèles à suivre. Nous devons être animés par cette pensée. Nous devons désirer être des modèles pour les autres. Nous regardons d'autres comme des modèles, soit dans la Bible, soit dans les livres que nous pouvons lire où Dieu nous donne d'avoir des chrétiens solides, mûrs. Mais nous devons aussi nous-mêmes chercher à être des modèles pour ceux qui se convertissent, qui viennent au Seigneur, afin qu'ils puissent croître dans leur marche chrétienne. Et puis je dis, il y a une chose pour terminer. Il y a plus de personnes qui professent suivre Christ que de personnes qui cherchent réellement les intérêts de Christ. Paul dit, tous ici ne cherchent que leur intérêt, à part Timothée. Il ne suffit pas de professer simplement de suivre Christ. Nous devons être animés par le souci de rechercher l'intérêt de Christ, en aimant véritablement nos frères et sœurs et en prenant à cœur vraiment leur situation. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce et ta parole. Et nous sommes interpellés par l'exemple de ce jeune homme que tu nous as donné, à qui tu veux que nous ressemblions. Oh Seigneur, fais que ta parole ne soit pas laissée sur le bord du chemin, mais que nous puissions l'accepter dans nos cœurs comme venant de toi. Et soumets nos cœurs dans l'obéissance à ta parole. Amen.